Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
À la une, ce cri d'alarme de la FAO et du PAM sur l'insécurité alimentaire en RDC. Dans un communiqué cette semaine, ils avertissent que sans investissement urgent et durable, la crise risque de s'aggraver davantage avec des conséquences potentiellement irréversibles pour 2 millions de personnes. En Ituri, nous parlerons de cette maladie non encore identifiée qui touche Mungwalu. Des dizaines de décès sont enregistrés même parmi les agents de santé. Des chiffres non encore confirmés par les autorités sanitaires locales. Mais notez qu'il y a une forte mobilisation de l'équipe médicale afin de déterminer l'origine de cette maladie. Comme invité, le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas, il annonce une interpellation du vice-premier ministre en charge de la défense. Notez au moins 879 personnes ont été tuées en Ituri cette année par les groupes armés, principalement les ADF. Madame, Monsieur, bonjour. Commençons par cette alerte. La République démocratique du Congo continue de faire face à l'une des crises alimentaires les plus graves et les plus étendues au monde. Le cri d'alarme est lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Dans un communiqué publié mercredi, ces deux organisations mettent en garde contre une aggravation de l'insécurité alimentaire en RDC, pays où, affirme-t-elle, des millions de personnes restent piégées dans une crise humanitaire croissante alors que les besoins dépassent largement la réponse apportée. Que retenir d'autre de ce document, Jean-Désiré Kanyama?
Dans ce document, la FAO et les PAM sont clairs. L'assistance humanitaire en RDC demeure largement insuffisante face à l'ampleur des besoins. Sans investissement urgent et durable, la crise risque de s'aggraver davantage, avec des conséquences potentiellement irréversibles pour des millions de personnes. Par exemple, en 2026, précise le communiqué, la FAO soutient déjà 55 500 familles touchées par la crise dans les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika, grâce à une allocation de 10 millions de dollars du Fonds humanitaire pour la RDC. Ce soutien comprend la distribution des semences, d'outils et d'intrants agricoles, ainsi que de transferts monétaires lorsque cela est possible. Toutefois, la FAO a un besoin urgent de 163 millions de dollars supplémentaires pour intensifier ce soutien agricole vital avant que les périodes critiques des semis ne soient manquées. Aujourd'hui, plus de 25,5 millions de personnes, soit près d'un Congolais sur quatre, peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Selon la dernière mise à jour de l'analyse du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire, IPC, parmi elles, plus de 3,6 millions de personnes se trouvent en situation d'urgence, confrontées à des pénuries alimentaires critiques qui menacent directement leur survie en l'absence d'une assistance urgente. À travers le pays, l'on compte plus de 7,8 millions de personnes déplacées internes, dont beaucoup ont perdu leur logement, leur champ, leur bétail et leur source de revenus.
Et puis, ce bilan, environ 31 400 emplois créés, 110 600 personnes ont pu avoir accès aux services financiers et plus de 200 000 survivantes de violences basées sur les genres assistées. Ces chiffres résultent de la coopération du cadre pour le développement durable entre le système des Nations Unies et la République démocratique du Congo pour l'année 2025. Ce rapport annuel a été présenté au cours d'une rencontre stratégique tenue hier jeudi à Kinshasa par les agences onusiennes et plusieurs ministères congolais. Notez que pour l'année 2026, une somme de 1,37 milliards de dollars américains seront mobilisés par le système des Nations Unies afin d'accompagner la mise en œuvre du plan national stratégique de développement de la RDC. John Chibwabwa pour plus de détails.
La RDC, comme autant d'autres nations, s'appuie sur des partenaires solides pour renforcer ses efforts internes. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le cadre de coopération CCDD-RDC. Le coordonnateur résident des Nations Unies, Bruno Le Marquis, insiste sur la nécessité de consolider une paix durable, socle indispensable de tout développement.
Il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix durable. La situation dans l'Est de la RDC exige que tous les efforts continuent à être faits pour soutenir les processus de paix et de cohésion sociale, à renforcer les approches Nexus humanitaire développement paix.
Le directeur chef des services d'études au ministère du Plan dresse le bilan du CDD pour l'année 2025. Rit Pembele.
31 414 emplois ont été créés en 2025 110 683 personnes ont accédé aux services financiers. Plus de 201 000 survivantes des violences basées sur le genre ont reçu une assistance.
De son côté, le ministre du Plan, Guylain Nyembo, appelle le partenaire à travailler dans un esprit de cohésion et d'harmonisation des interventions afin de répondre favorablement aux attentes de la population.
Parlant en présence de cette maladie non encore identifiée qui se coule Mungwalu en Ituri, des dizaines de décès sont enregistrés même parmi les agents de santé dans cette cité minière du territoire de Djougou, des chiffres non encore confirmés par les autorités sanitaires locales. Cette maladie suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes au sein de la population depuis 2 semaines. Notez qu'une forte mobilisation de l'équipe médicale est observée en vue de déterminer l'origine de cette maladie. Nous faisons le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'après le médecin-chef de la zone de santé de Mungwalu, les symptômes observés chez les patients sont particulièrement alarmants. Forte fièvre, maux de tête, courbatures, vomissements et, dans certains cas, des hémorragies. Diverses sources font déjà état de dizaines de morts, y compris parmi le personnel soignant, dans des structures sanitaires, chez des tradis praticiens ou encore à domicile, notamment à Mungwalu et à Bunia, chef-lieu de la province. Face à cette situation, la psychose gagne progressivement la communauté. Des rumeurs ont circulé dans un premier temps autour d'un incident survenu lors d'un enterrement après l'incinération d'un cercueil dans un quartier de la cité. Mais les professionnels de santé appellent à la prudence et affirment qu'aucune preuve scientifique ne permet à ce stade d'établir un lien. Les premiers prélèvements analysés se sont révélés négatifs, mais de nouveaux échantillons ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale afin d'identifier l'origine exacte de cette maladie. Une réunion s'est tenue ce jeudi afin de lancer des messages de sensibilisation sur les mesures barrières. Cette initiative vise également à calmer la population et à limiter la psychose. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé. Radio Okapi.
Et nous restons en Ituri pour vous signaler que la représentante pays intérimaire de l'OMS est justement sur place, précisément à Bunia. Pour Anne Ancia, la situation sécuritaire inquiétante reste le plus grand défi pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Elle s'est exprimée ainsi mercredi après une réunion de travail avec le gouverneur de province. En mission officielle, la représentante pays intérimaire de l'Organisation mondiale de la santé déplore le fait que les structures sanitaires soient les cibles des hommes armés, situation qui, selon elle, ne facilite pas les opérations du terrain des équipes sanitaires. Anne Ancia salue cependant la collaboration étroite qui existe entre les autorités provinciales et son organisation dans le souci d'apporter des réponses rapides aux populations. Suivez un extrait des propos de Anne Ancia, choisi par Marcel Kizabiamungu.
Je suis venue voir effectivement quelle est la situation sanitaire de la population, quels sont les besoins de la population, quels sont les défis auxquels éventuellement mes équipes font face, de manière à voir si l'OMS doit renforcer ou ajuster par exemple les opérations que nous avons en cours dans la province de l'Ituri pour mieux répondre aux besoins sanitaires de la population. Le plus grand défi, c'est la continuité du déplacement des populations et encore certaines fois certains centres de santé qui sont pillés, donc il y a un petit peu des accès en fait aux services sanitaires pour le moment, mais nous savons que très souvent, par exemple quand il y a ces pillages qui ont lieu, effectivement nos équipes sont toujours énormément aidées par le gouverneur quand il faut par exemple retrouver des médicaments complémentaires à ce que l'OMS déjà amène sur le terrain.
Et puis cette recrudescence de l'insécurité dans l'agglomération de Nsele à Mbanzangungu, les défenseurs des droits de l'homme du Congo central tirent la sonnette d'alarme. Selon ces activistes, de nombreux habitants vivent dans la peur à cause des incursions nocturnes répétées des criminels sans intervention efficace des forces de l'ordre et cela dure depuis plusieurs mois. La police, elle, appelle la population au calme. Dédité avec Elise Kavira.
Pour les défenseurs des droits humains de Mbanzangungu, le nombre des policiers déployés pour sécuriser l'agglomération d'Ntsele est insuffisant au regard de son étendue. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, tire la sonnette d'alarme.
L'agglomération Ntsele compte plus de 7 quartiers, y compris des villages voisins. Maintenant que plus ou moins 5 policiers. D'ailleurs, ce sont les adeptes des Bundudian Congo qui assurent la sécurité ici. Notre demande est que l'agglomération Ntsele soit remise sous la direction du district de Lukaya.
Par ailleurs, du côté de la police, le commandant territorial de Mbanzangungu, Yongo Boseke Jean-Louis, affirme que les dispositions sont prises pour mettre fin à l'insécurité dans la zone.
Quand il y a eu évasion dans la prison de Mbanzangungu, tous les criminels sont sortis de là et c'est comme ça qu'on avait connu ce cas. Je suis allé personnellement tenir une réunion de sécurité avec l'administrateur du territoire Après cette rencontre, les amis de BDK, il était question qu'ils aident la police, et chose qui a été faite, ils font maintenant des patrouilles ensemble avec nos amis des FARDC qui sont encore là.
Le commandant Lyongo Boseke Jean, lui, appelle la population au calme et assure que la demande de renforcement des effectifs policiers a déjà été transmise aux autorités compétentes. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Un retour à Kinshasa pour vous annoncer que les militaires de la garde républicaine vont procéder aujourd'hui et vendredi, 15 mai, aux entraînements en militaire de simulation. Ces exercices seront accompagnés des tirs à balles d'exercice ou encore des cartouches blanches et seront organisés au stade des martyrs. Donc, ne cédez pas à la panique. Ces exercices visent simplement à évaluer les dispositifs de réaction, à améliorer la coordination des unités et à renforcer les procédures d'intervention en situation réelle d'urgence. C'est ce que nous précise le communiqué du commandement de l'état-major de la garde républicaine. 3 morts, quelques blessés et des personnes déplacées. Bilan des affrontements liés à un conflit de terre mercredi entre les habitants de 2 villages de la chefferie de Bena Nyembo. C'est dans les territoires de Kongolo, province du Tanganyika. L'administrateur du territoire précise que les habitants de ces 2 villages se sont affrontés à l'arme blanche. Il annonce qu'une équipe mixte police et FARDC est descendue sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Il appelle entre-temps les habitants de ces villages au calme. Suivez les propos de Ngongo Mboka Amiba, administrateur de Kongolo. Ces propos sont sélectionnés par Paula Amunanga.
Il y a eu bagarre parce que le communiqué est venu d'une bouche autorisée, c'est-à-dire le chef de chefferie de Bena Nyembo, à travers son secrétaire, le chef Gilles Loigne, confirmant qu'il y a eu opposition entre les habitants des villages Buzilangue et village Kapalai. L'origine du conflit, c'est le conflit des savanes qui les oppose. Depuis hier soir, on a eu un bilan de 3 morts de part et d'autre, c'est-à-dire pour les 2 côtés. La précision avec l'identification des morts. Nous attendons les informations qui pourront encore nous venir avec tous les membres du Conseil de sécurité. Les dispositions ont été prises depuis hier. Il y a déjà une équipe de sécurité qui est là. Et nous attendons les derniers rapports pour confirmer qui est décédé. Quand on parle des morts, effectivement, il y a des blessés. On nous parle qu'il y a des blessés qui sont soignés au centre de santé de Yenga et les uns au niveau, je pense, de Makutano. On le saura avec toutes les précisions à travers l'équipe qui est là. On est appelé à faire un effort pour éradiquer certains conflits.
Tout à fait autre chose. L'insalubrité prend des proportions inquiétantes à Kinshasa, précisément à l'arrêt entrée Kimwenza cité Pumbu. Tenez, cet espace est devenu une véritable décharge à ciel ouvert. Depuis plusieurs semaines, des immondices s'accumulent sur place. Cela dégage des odeurs nauséabondes et pollue l'environnement. Commerçants et passants expriment leur ras-le-bol face à cette situation qui qualifie d'insupportable. C'est un reportage signé Daniela Awa.
Des montagnes de sacs plastiques et des restes alimentaires recouvrent le sol. Sur place, le commerce et l'insalubrité coexistent dans un mélange préoccupant. Les mouches envahissent les lieux et l'air est devenu difficile à respirer. Une vendeuse témoigne de la situation.
Les gens du marché viennent jeter leurs déchets ici. Même quand l'air demande d'arrêter, ils ne coûtent pas. Le policier nous demande de payer pour un salon qui ne se fait pas. Ceux qui connaissent les règles d'hygiène n'achètent pas. Nous vendons difficilement.
Une habitante du quartier exprime également son inquiétude face à cette situation.
Nous passons par ici tous les jours, mais c'est devenu difficile. Les embouteillages avec des motos, cette grande route se transforme en décharge.
Interrogé sur ce retard dans l'évacuation des déchets, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, s'exprime.
Ces déchets, nous les avons évacués le samedi. Mais curieusement, ce sont ces mêmes riverains qui viennent encore jeter les immondices. Nous ne pouvons pas tolérer ça. La police est à côté, nous avons blâmé la police. Il est anormal qu'on trouve des immondices à côté d'un siècle. Nous mettons des moyens pour évacuer tous ces déchets. Nous regrettons beaucoup le comportement de tous ces riverains. Nous pensons que si nous attrapons quelqu'un en flagrant délit, il sera sanctionné.
En attendant une solution durable, les habitants de la cité Pumbu et ses environs vivent dans l'inquiétude.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle lors d'une séance de questions-réponses du président pour exprimer leur mécontentement. Cyril Ramaphosa fait l'objet d'accusations de fautes graves. Ils exigent sa démission. Le président sud-africain a exclu lundi toute possibilité de démission et a déclaré qu'il contesterait devant les tribunaux la procédure de destitution engagée à son encontre dans le cadre d'un scandale lié au vol d'une importante somme d'argent dans l'une de ses résidences. L'affaire a refait surface la semaine dernière après qu'une qu'une décision de justice a annulé le rejet d'un rapport parlementaire de 2022 qui concluait que Ramaphosa aurait pu commettre des violations graves et des fautes professionnelles.
L'invité.
Au moins 879 personnes tuées en Ituri cette année par des groupes armés, principalement les ADF. Des chiffres avancés à l'Assemblée nationale par le député national indépendant Gratien Irachan de Saint-Nicolas. L'élu de Bounia annonce une interpellation du vice-premier ministre en charge de la défense et juge insuffisante les réponses apportées à la question et à sa question écrite sur la situation sécuritaire dans cette province. Gratien Irachan affirme également avoir saisi le président français ainsi que le gouvernement allemand pour plaider en faveur du renforcement des moyens de la MONUSCO et d'enquête indépendante sur les tueries des civils en Ituri. Ils s'entretiennent ici avec Rassam Zati.
Gratien Irachan, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, vous affirmez qu'il y a près de 879 morts en Ituri depuis le début de l'année 2026. D'où proviennent ces chiffres?
Je commence par réitérer mes condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées. Vous savez, obtenir les chiffres, c'est pas facile en Ituri. D'autant plus que nous avons des sources religieuses. Donc, ce sont les églises parfois qui nous donnent les chiffres. Nous avons la société civile qui nous donne des chiffres. Nous avons les acteurs politiques crédibles qui nous donnent les chiffres. Et nous avons des sources indépendantes, étatiques, comme des chefs de groupement, des chefs de localité qui sont présents sur les lieux, qui nous avons ces chiffres-là. Et en plus de cela, maintenant, il y a la communauté humanitaire aussi qui avance des chiffres. Mais je vous dis que ce n'est pas facile de pouvoir obtenir, parce que même ces chiffres, nous pensons que ce n'est pas les chiffres qu'il fallait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent et on n'a pas accès à ces zones-là.
Et les groupes principal, ce sont les ADF.
Si je parle de l'Ituri, il y a les ADF, mais ici, je me focalise sur les territoires d'Enjougou, parce que je travaille beaucoup sur les dossiers des ADF aussi, parce qu'il y a des initiatives parlementaires sur lesquelles j'ai donné des précisions par rapport à tous ceux-là qui sont exécutés par les ADF. Mais ici, il s'agit des territoires d'Enjougou, où on est face à une situation extrêmement délicate. C'est là où je demande toujours des enquêtes. Et moi, je ne voudrais pas citer les noms de ces groupes, je voudrais que les enquêtes, parce que nous avons obtenu quand même une commission d'enquête au niveau du Parlement, mais aussi nous avons obtenu une séance à huis clos où nous allons débattre de cela. Et aussi, le président ougandais, Yoweri Museveni, il a écrit au chef de l'État congolais à propos de ces mêmes massacres. Et merci pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le président de la République, qui a instruit maintenant les ministres, les VPM de la Défense et de l'Intérieur à pouvoir diligenter des enquêtes à ces propos-là. Et ça nous donnera donc des bonnes réponse, parce que je ne voudrais pas être pressé pour citer des noms ici, mais je voudrais que ces enquêtes aboutissent et qu'on dise les noms. Et donc, c'est quelque chose qui nous interpelle et qui fait en sorte que nous ne restons pas sensibles. Donc, c'est pour vous dire que ces chiffres, c'est même moins que la réalité sur terrain. Plus de 879 entre janvier et mai 2026 aujourd'hui. Seulement pour la partie ADF, c'est plus de 300 personnes qui sont tuées. Alors, c'est une situation vraiment qui devrait alerter le monde, parce que ce sont des humains qui sont en train de mourir.
Alors, vous avez adressé une question écrite au vice-premier ministre, ministre de la Défense, par rapport à la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Quelle a été la suite?
Nous avons adressé, en date de 30 janvier 2026, une question écrite au ministre de la Défense, parce qu'il y avait, souvenez-vous, des massacres dans les centres de commandes. Et nous, on n'a pas compris. Commandes, c'est une grande agglomération. Comment les ADF se sont infiltrés jusqu'à venir tuer dans commandes, mais aussi emporter les biens paisiblement, et ils ont ramassé une bonne partie des jeunes et des femmes, ils les ont amenés en brousse. Où étaient nos forces de sécurité à ce moment-là? C'est comme ça que j'ai initié une question pour qu'on comprenne quelles sont les dispositions que nos forces de sécurité sont en train de prendre pour pouvoir limiter les dégâts, donc pour pouvoir neutraliser les ADF, et quelles sont les dispositions pour protéger la population face à cela. Le ministre a répondu au mois de mars en nous donnant des garanties dans sa lettre que tout est mis en œuvre avec la coalition, les opérations conjointes UPDF, l'armée ougandaise et l'armée congolaise, pour qu'on neutralise ces semeurs de troubles sur place. Mais il y a eu encore des massacres qui atteignent même 200 personnes. Et ce qui est grave, aujourd'hui les terroristes ADF se déplacent à l'intérieur même de la RDC. Avant, ils étaient plus vers la frontière parce qu'ils ont l'origine ougandaise. Et maintenant, ils vont plus à l'intérieur de notre pays et ça cause maintenant une peur permanente, une crainte parmi la population civile, et il y a des déplacements partout.
Et vous avez transformé cette question écrite en interpellation?
Oui, parce que j'ai posé 6 questions au VPM, ministre de la Défense, mais en fait, toutes les 6 questions qu'il a répondu ne nous ont pas convaincus. Et la conséquence, vous avez vu, les gens continuent de mourir même après la réponse qu'il a posée. Et donc, dans notre règlement intérieur, à l'article 184, si vous pensez que la réponse ou les réponses que le gouvernement vous a données ne vous convainc pas, vous pouvez transformer ça à l'interpellation, qui est une procédure sanctionnable. Ça veut dire que avec la question écrite, vous ne pouvez pas sanctionner le gouvernement. Mais quand ça devient une interpellation, vous pouvez sanctionner. Mais il y a une condition, on doit d'abord délibérer à huis clos la demande de l'interpellation avant que cela aboutisse.
Gracien Irajan de Saint-Nicolas, je vous remercie.
Merci à vous autant.
Gracien Irajan de Saint-Nicolas, député national indépendant élu de l'Ituri. Fin de ce journal préparé par Lievin Mbwinga, la mise en nom dessinée Pierre Diassinois. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bonne journée.